Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode consacré à la motivation. Un sujet assez crucial puisque c'est ce qui nous donne l'impulsion d'accomplir des choses qui sont importantes pour nous, d'atteindre nos objectifs pro, nos objectifs perso, d'améliorer des aspects de notre vie qui nous plaisent pas ou qui nous plaisent plus. La motivation, c'est ce qui nous donne l'énergie d'avancer dans la vie et de nous créer une vie qu'on aime, donc ça méritait bien un épisode un peu plus long et c'est pour ça que je l'ai divisé en deux parties. Donc dans la première partie, je vous invite à l'écouter parce qu'on a justement défini ce qu'est la motivation, on a parlé des différents types de motivation et surtout, et ça c'est crucial, on a exploré les différentes raisons qui font que parfois on manque de motivation, qu'on a du mal à se motiver et c'est super important de comprendre ça et de réussir à pointer exactement ce qui bloque pour pouvoir ensuite apporter des solutions qui sont adaptées. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première partie. Et si c'est fait, passons maintenant aux solutions concrètes pour trouver et surtout garder la motivation pour atteindre nos objectifs. Dans l'épisode précédent, quand on avait parlé des différentes raisons qui font que parfois on n'est pas motivé, j'avais commencé par vous dire que déjà, c'est normal que la motivation fluctue. C'est normal de ne pas être tout le temps motivé. La motivation en tant que telle, c'est un état passager. Et donc, ça varie selon la nuit qu'on a passée, la qualité de notre sommeil, selon notre environnement, selon une discussion qu'on a eue avec quelqu'un qui, par exemple, nous a boosté, ou au contraire, qui nous a un petit peu découragé. Ça peut être un livre qu'on a lu. Donc, il y a plein de choses qui font que la motivation, ça va, ça vient. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Même si bien sûr on peut faire des choses pour se booster, on peut écouter un podcast inspirant, on peut discuter avec un ou une amie qui nous encourage, qui nous motive. Voilà, ça c'est des choses qui effectivement peuvent nous donner une impulsion, mais ce dont on a besoin après, pour continuer sur la durée, en réalité c'est d'autodiscipline. Et je sais que là, la moitié d'entre vous a eu des frissons en m'entendant dire ce mot d'autodiscipline, mais en réalité, ce qui permet de continuer d'avancer, ce qui permet de persévérer, même quand la motivation n'est pas au beau fixe, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui fluctue, eh bien, c'est l'autodiscipline. Je pense qu'on a tous vécu ça quand on a eu un projet, un objectif, une idée. Au début, on est un peu dans la phase de lune de miel, on est super motivé, on passe beaucoup de temps dessus, on est tout feu, tout flamme, et puis au bout de quelques semaines, parfois quelques jours, mais en général quelques semaines, quelques mois, la motivation redescend et puis on se retrouve avec cet abonnement à la salle de sport qu'on paye pour rien, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Et on peut tous trouver des exemples où au début on était motivé, on était à fond, et puis ensuite ça redescend et ça devient de plus en plus difficile de s'y mettre, ça demande de plus en plus d'efforts. Et le soir quand on rentre, après une journée de travail dans les pattes, on n'a pas très très envie de se motiver à aller à la salle de sport ou de travailler sur la création de notre auto-entreprise ou sur écrire un chapitre du livre qu'on a envie d'écrire. Alors on n'a qu'une envie, c'est se poser sur le canapé ou d'aller boire un verre avec nos amis en terrasse. Et donc dans ces moments-là, si on s'appuie uniquement sur notre motivation, il y a de fortes chances qu'on finisse par laisser tomber. Et encore plus si l'objectif est lointain et si on n'a pas de résultat immédiat. On a encore plus de chances d'abandonner. Et donc c'est là où être discipliné, ça nous facilite la vie. C'est ce qui nous permet de plus compter seulement sur un élan de motivation qui, en général, est éphémère. Alors que la discipline, l'autodiscipline, c'est l'habilité à se mettre en action, à faire les choses, même si c'est dur, même quand on n'a pas envie. Et je sais que c'est un mot qui fait peur parce qu'on l'associe beaucoup à l'école, à des parents qui seraient durs, qui seraient sévères. On l'associe au conseil de discipline. Donc il y a plein de choses autour de cette notion de discipline qui peuvent rappeler de mauvais souvenirs, qui peuvent faire peur. Mais en réalité, le but de l'autodiscipline, c'est pas de se faire du mal et encore moins de se faire du mal pour rien. Le but, l'objectif derrière l'autodiscipline, c'est de le faire pour atteindre des objectifs qui sont importants pour nous, pour faire des choses qui comptent pour nous. Donc ça veut dire passer par un inconfort provisoire pour quelque chose qui est à plus long terme, qui vaut la peine en fait, tout simplement. Et je vous avoue que le fait d'avoir compris ça, ça m'a aidé à changer beaucoup de choses dans ma vie, parce que pour moi, autodiscipline et liberté étaient des concepts qui pouvaient pas aller ensemble en fait. Si je voulais garder ma liberté, je pouvais pas me forcer à faire telle chose tel jour et ça n'avait pas de sens. Alors qu'en réalité, si, justement, le fait d'avoir réussi à m'autodiscipliner, parce que vraiment c'est une compétence qu'on peut développer, eh bien ça m'a permis d'être beaucoup plus libre. sortir du salariat et créer une entreprise qui fonctionne, ça a demandé beaucoup d'autodiscipline et aujourd'hui ça m'apporte énormément de liberté. Faire le ménage et les tâches administratives chiantes la semaine alors que quand on rentre du travail on n'a pas du tout envie de s'occuper de ça, ça permet quand même d'être libre le week-end et de profiter. Donc voilà, ça c'est vraiment ma vision de l'autodiscipline, je pense que c'est hyper important et c'est une compétence hyper importante à développer pour atteindre nos objectifs et que ce n'est pas du tout incompatible avec la liberté et avec le fait de faire ce qu'on veut et de se faire plaisir. C'est important de savoir faire preuve d'autodiscipline pour les objectifs qui sont importants pour nous, pour les objectifs qui comptent et se lâcher la grappe sur le reste. Et pour ça, bien sûr, il faut que vous soyez au clair sur vos objectifs, que vous sachiez exactement où vous voulez aller, où vous allez. Parce que le manque de clarté, c'est souvent fatal pour la mise en action. Et donc c'est super important d'apprendre à se fixer des objectifs. Et je sais que ça paraît hyper bateau, mais croyez-moi, c'est pas toujours évident. Donc je vous invite à vous demander si vous êtes sur le point de vous lancer dans un challenge ou vers un objectif, ou que vous avez du mal à vous motiver, tout simplement. Demandez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir ? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'ici quelques années ? Et essayez d'être le plus concret ou concrète possible. Parce que encore une fois, quand c'est pas clair, quand on sait pas exactement où on va, bah c'est bien sûr difficile d'y aller. Donc là, le but, c'est d'avoir une direction précise à mettre dans votre GPS interne. Et je vous invite aussi à respecter quelques petites règles essentielles pour que vos objectifs soient motivants. Parce que n'oublions pas ici, l'objectif de l'épisode, c'est de vous partager des clés pour trouver la motivation, mais aussi rester motivé. Et donc la manière dont vous formulez vos objectifs est essentielle pour ça. Donc il faut que d'une part vos objectifs soient atteignables, mais qu'ils soient un minimum challengeants. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas être trop hauts, qu'ils doivent quand même être atteignables, que vous sachiez au fond que c'est possible, parce que sinon ça va complètement vous décourager, donc voilà, ça va être compliqué de vous mettre en action. Mais aussi c'est important qu'ils soient un minimum challengeants, parce que si vos objectifs sont trop bas, ça risque de ne pas être très stimulant, pas très intéressant, et donc ça va être aussi difficile de vous motiver. Donc essayez de faire en sorte de rendre votre objectif le plus intéressant possible, voire même si vous le pouvez, le rendre fun, le rendre amusant, c'est tout de suite plus motivant. Et on en avait parlé dans l'épisode, enfin dans la partie 1, on avait parlé de la motivation intrinsèque, qui est le fait de faire les choses, de se motiver parce que c'est plaisant, parce qu'on prend du plaisir à faire cette activité ou cette tâche. Et on avait vu que c'est le type de motivation qui est le plus puissant. Donc si vous pouvez faire en sorte d'avoir une motivation intrinsèque à réaliser cet objectif, à vous mettre en action, bah c'est tout bénef. Mais bien sûr, c'est pas toujours possible, donc essayez au moins de faire en sorte que l'objectif soit stimulant. Et d'ailleurs, les conseils que je vous partage aujourd'hui, ça marche aussi si vous souhaitez motiver quelqu'un. Si vous êtes manager et que vous avez une équipe, il faut bien sûr que les tâches que vous leur donniez soient intéressantes, soient un minimum stimulantes, parce que sinon ce sera bien difficile pour eux de se motiver. Mais il faut que ça paraisse faisable, que ce soit atteignable. Et d'ailleurs, c'est pas toujours évident de faire en sorte que ce soit fun, mais pour que ce soit un minimum stimulant, ça peut être intéressant de formuler votre objectif comme un objectif d'apprentissage. Par exemple, au lieu de décider de perdre, je sais pas, 7 kilos, vous pourriez vous fixer comme objectif d'en apprendre plus sur la nutrition et de cuisiner 2 repas sains par semaine, par exemple. Donc ça, c'était la première règle, un objectif atteignable, mais qui soit un minimum challengeant. La deuxième règle pour fixer des objectifs qui soient motivants, c'est qu'ils doivent être spécifiques. Vos objectifs doivent toujours être clairs, doivent toujours être le plus précis possible, le plus détaillé possible. Parce que si vous vous dites « samedi matin, je vais continuer d'écrire un petit peu mon livre », il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est quand même plus difficile de se motiver que si l'objectif c'est « samedi matin, je vais écrire 1 chapitre de mon livre » ou « je vais écrire 3 pages » ou je ne sais quoi. Donc essayez de faire en sorte que ce soit le plus clair possible et que ce soit pas vague, parce que lorsque c'est trop vague, par exemple si votre objectif c'est je vais gagner confiance en moi, ça veut rien dire en fait, on sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas par quel bout prendre les choses, et en plus c'est difficile d'être satisfait, d'être content de soi à la fin, parce que quand est-ce que vous savez que vous avez gagné confiance en vous, quand est-ce que vous avez suffisamment écrit et que vous serez satisfait, s'il n'y a pas de fin, vous n'aurez pas ce sentiment d'efficacité personnelle. Or, ce sentiment justement d'être efficace, d'avancer, il est super important pour se motiver, parce qu'on se dit « ah bah là, c'est chouette, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai avancé, et ça donne de la motivation. » Alors que si votre objectif c'est écrire un livre et c'est tout, bah, le seul moment où vous serez satisfait, c'est quand vous aurez terminé. Or, c'est super loin, donc vous n'aurez pas ce sentiment d'efficacité personnelle, vous n'aurez pas ce sentiment d'avoir accompli des choses, et on a besoin, quand il y a un grand objectif, de le diviser en mini-objectifs justement pour se sentir satisfait, pour voir qu'on avance, pour être motivé. Et donc ça c'est aussi le troisième point, troisième règle que je vais vous partager. Quand vous fixez un objectif, faites en sorte qu'il soit mesurable. Vous devez pouvoir mesurer l'état d'avancement vers votre objectif ou le fait que vous l'ayez atteint ou pas. Et typiquement, l'objectif manger sain, c'est pas très mesurable. Quand est-ce que vous saurez que vous avez mangé sain ? C'est quoi manger sain ? C'est combien de fois par semaine ? Donc c'est important que votre objectif soit mesurable. Et enfin, quatrième règle, c'est qu'il doit être temporellement défini. Votre objectif doit avoir une temporalité, une date de réalisation. Et là, ce qui est important, et ce qui est intéressant, c'est de voir que selon le type d'objectif et vos besoins, il y a plusieurs manières de faire. Si ce pourquoi vous voulez vous motiver, c'est une tâche qui n'est pas très intéressante, c'est une activité qui ne vous passionne pas des masses, ça va être plus efficace de vous fixer des objectifs à court terme. Ou en tout cas de diviser cette tâche ou cette activité ou cet objectif en plus petits objectifs que vous pouvez compléter à court terme. Parce que ça va vous permettre de voir votre progrès, d'avoir la sensation d'accomplir des choses et ça va pouvoir booster votre engagement et vous redonner à chaque fois un petit peu de motivation pour continuer jusqu'à l'étape suivante qui est pas trop loin. Et puis ça peut donner aussi un sens d'urgence. Il y a plein de personnes qui fonctionnent uniquement comme ça. Bon, c'est pas idéal, mais ça a son intérêt aussi quand la deadline est proche. Ben voilà, il y a ce sentiment d'urgence, il faut se mettre en action vite, on fait un peu en dernière minute, mais on fait. Donc le fait de se définir des objectifs proches dans le temps, proches temporellement, ça peut permettre de se motiver quand c'est pas hyper intéressant pour vous. Par contre, quand ce sont des tâches qui sont intéressantes, là, des objectifs plus long terme, ça peut être plus efficace parce que ça vous permet d'être plus flexible, plus autonome et de pas faire les choses parce qu'il faut les faire, mais justement de garder l'aspect plaisir puisque c'est une tâche ou une activité qui est intéressante, que vous êtes motivé intrinsèquement, bah, ça peut marcher d'avoir des objectifs plus long terme où vous fonctionnez au plaisir, on peut dire ça comme ça. Donc ça, ça peut être une donnée à prendre en compte et c'était notre quatrième règle pour fixer des objectifs qui sont motivants. La cinquième et sans doute la plus importante pour rester motivé, c'est de faire en sorte de fixer des objectifs qui soient en accord avec qui vous êtes, qui soient en accord avec vos valeurs, avec vos aspirations profondes, avec les ressources dont vous disposez aussi, avec vos contraintes, qu'en fait votre objectif soit congruent. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec une personne qui avait une super idée de projet entrepreneurial et qui voulait se lancer là-dedans. Sauf qu'elle n'arrivait pas à se motiver, elle n'arrivait pas à se mettre en action. Elle avait vraiment du mal à avancer dans ce projet qui pourtant lui plaisait énormément. Et lorsqu'on a creusé un petit peu les raisons qui se cachaient derrière ce manque de motivation, on s'est aperçu que certes, son projet lui plaisait, il était en accord avec elle sur certains points, mais qu'en même temps, il venait en contradiction avec certaines de ses valeurs, avec certaines de ses aspirations. Et notamment à ce moment-là, ce qui était important pour elle, c'était sa famille. Et depuis qu'elle était maman, elle avait moins de temps, mais aussi... Au fond, le temps dont elle disposait, c'était plus important de le passer avec ses enfants. En tout cas, à ce moment-là de leur vie, parce qu'ils étaient relativement petits. Et donc, son projet, même s'il correspondait à certaines de ses valeurs, bah, c'était pas tout à fait en accord avec d'autres de ses valeurs, avec ses contraintes, avec ses ressources, et avec ce qui était vraiment au fond important pour elle. Donc c'est pas évident, parce que ça demande aussi parfois de renoncer à certains objectifs, ou de les reporter à plus tard. Mais pour rester motivé et pour pouvoir se mettre en action vers vos objectifs, c'est hyper important de vous demander s'ils sont congruents, si vraiment ils sont en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos ressources, avec vos contraintes, etc. Et donc ça fait une super transition avec le deuxième point, la deuxième clé que je veux vous partager pour trouver et garder la motivation, c'est de connaître votre pourquoi. Pourquoi cet objectif ? Pourquoi ce projet ? Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui vous motive ? Pourquoi c'est important pour vous ? Et vraiment, j'insiste sur le « vous », pourquoi c'est important pour vous, et pas pour les autres, et pas pour répondre aux attentes de la société, et pas pour vos parents, votre partenaire, etc. Pourquoi c'est important pour vous ? Et vraiment, quand vous vous posez ces questions, soyez honnête, soyez le ou la plus honnête possible, parce que si votre pourquoi, si la raison derrière votre objectif n'est pas suffisamment forte, bah c'est évident que vous aurez du mal à vous motiver. Je vous en parlais dans la première partie, quand la motivation est intrinsèque, quand... votre objectif a du sens pour vous, quand vous voyez que c'est utile, quand c'est en lien avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, bien, ça sera plus simple de se motiver. Ça ne veut pas dire que c'est facile, bien sûr, mais ça sera plus simple de trouver la motivation puisque c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. C'est quelque chose que vous avez choisi, avec lequel vous vous sentez vraiment aligné. Et bien sûr, quand votre pourquoi est fort, ça sera ensuite beaucoup plus facile de vous discipliner et de vous mettre en action même quand vous n'avez pas très envie, parce que l'objectif qu'il y a derrière a de la valeur à vos yeux, et donc persévérer et traverser de l'inconfort, ça vaut le coup. Si à l'inverse, votre motivation de base, votre pourquoi n'est pas vraiment fort, bah, vous risquez de pas être vraiment motivé sur la durée, de rencontrer beaucoup de résistance et vous allez avoir du mal à vous impliquer, ou en tout cas pas pareil. Et c'est en grande partie pour ça que je propose pas du coaching en entreprise, auprès d'entreprises, parce que potentiellement je vais travailler avec un salarié qui bien souvent s'est vu imposer un coaching par son employeur, ou bien peut-être qui sera motivé et impliqué dans la démarche, mais qui, dans de nombreux cas, m'aura pas choisi. Alors que là, les personnes avec qui je travaille, qui soit écoutent le podcast ou me suivent sur Instagram ou par d'autres moyens, connaissent mon approche et quand elles me contactent, elles veulent vraiment travailler avec moi et surtout, elles sont vraiment motivées à changer et elles savent pourquoi elles le font. Elles savent ce qu'elles ont à gagner en termes de sérénité, en termes d'épanouissement pro, en termes d'épanouissement perso. Et du coup, ce sont des personnes qui sont super impliquées. Et honnêtement, de mon côté, c'est quand même vachement plus agréable de travailler avec des personnes qui ont vraiment envie d'être là, qui sont motivées et avec qui on va pouvoir faire un vrai travail d'équipe. Donc ça, c'était la deuxième clé, c'est de vraiment être au clair sur votre pourquoi, d'être au clair sur votre motivation initiale et de pas vous contenter d'une réponse bateau ou de la première chose qui vous vient à l'esprit, mais de vraiment vous poser la question de pourquoi cet objectif est important, pourquoi ce projet, pourquoi ce changement, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi c'est vraiment important pour vous. Maintenant qu'on a posé les bases avec ces deux premières clés et que vous êtes au clair sur vos objectifs, sur votre motivation, on va voir comment faire pour rester motivé. Parce que bien souvent, le problème avec la motivation, c'est pas toujours de la trouver, et c'est surtout de la garder. Et donc pour ça, et c'est la troisième clé, l'idée c'est de découper votre objectif en mini-objectifs, en mini-actions. Ça vaut autant pour vos objectifs pro que perso. Parfois, on a l'impression d'avoir une montagne à gravir, d'avoir une tonne d'efforts à fournir pour atteindre notre objectif, et c'est hyper décourageant. Le fait de se sentir submergé, de se sentir dépassé, ça entraîne nécessairement du découragement. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps de définir la façon la plus simple d'atteindre votre objectif. Quelle est la manière la plus efficace, la plus simple, la plus facile, la plus rapide, la moins coûteuse, coûteuse ça peut être en argent mais surtout en temps, en énergie, etc., d'atteindre votre résultat escompté, d'atteindre votre objectif. Imaginez que vous êtes arrivé à votre objectif, que vous êtes déjà sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous avez fait en rétrospective, pour y arriver. Quelles ont été les étapes et quel a été le chemin le plus simple et le moins tortueux que vous avez emprunté. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, divisez votre objectif en petites étapes qui vous semblent faisables et qui vous semblent claires aussi dans la réalisation. Je vous donne un exemple. Si votre objectif, c'est de vous lancer en freelance, une des grandes étapes, ça peut être de créer ou de lancer votre site internet. Et donc si vous divisez ça en petites étapes, ça pourrait être trouver un nom, acheter le nom de domaine, comparer les plateformes d'hébergement, choisir un template de site internet ou bien choisir une personne, un professionnel pour faire le design, définir les différentes pages que vous souhaitez voir apparaître sur le site, écrire le contenu de la page d'accueil, etc. etc. Et vous pouvez même, et moi c'est ce que je fais personnellement, vous pouvez même diviser, vous pouvez même segmenter encore plus. Par exemple, si vous voulez chercher une personne, un professionnel pour vous occuper du design de votre site, bah vous pouvez peut-être lister les sites qui recensent des freelances. Deuxième étape, faire une liste des professionnels dont le profil vous intéresse. Troisième étape, contacter les professionnels pour demander un devis. Voilà, donc vous pouvez vraiment diviser et le mieux, c'est ce que je fais comme je vous le disais, le mieux c'est de diviser le plus possible pour que ça vous paraisse le plus faisable possible et aussi pour que vous ayez des objectifs, des mini-objectifs qui soient proches, que vous pouvez cocher et vous pouvez voir que vous avancez et ça c'est super motivant. Parce que si vous gardez juste comme objectif créer un site internet, voilà, il y a tellement de choses à faire et ça peut paraître lointain, ça peut paraître compliqué. Franchement, on n'y connaît rien pour certaines personnes. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc voilà, l'idée, c'est des toutes petites tâches où vous avez un sentiment d'accomplissement quand vous les réalisez et faire en sorte que ce soit réaliste aussi en termes de temporalité. Parce que s'il y a bien un truc, je trouve en tout cas, qui vient nuire à la motivation, c'est le fait d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Si vous travaillez 35 ou 40 heures par semaine, vous ne pourrez pas développer votre projet freelance à côté aussi rapidement que si vous ne faites que ça et si vous travaillez à temps plein sur ce projet-là. Donc c'est super important d'accepter la réalité des choses, d'accepter vos contraintes. Pareil, si vous êtes jeune maman, vous n'aurez pas forcément le même temps qu'une personne qui ne l'est pas, tout simplement. Donc c'est essentiel d'avoir des attentes qui sont réalistes, sinon vous risquez de vous décourager parce que vous aurez l'impression que ça n'avance pas. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. Après, en combien de temps ? Est-ce que c'est vraiment important? Oui, je sais que vous avez envie d'atteindre votre objectif le plus rapidement possible, mais gardez en tête que si vous avez cette attente de l'atteindre très rapidement et que c'est pas possible, vous risquez d'être découragé. Donc essayez d'être réaliste, de trouver un rythme qui vous convient et d'essayer de ne pas vous décourager si vous manquez de temps. Si vous n'avez que 20 minutes par jour, bah 20 minutes tous les jours à la fin de l'année, c'est énorme. Et attendez, je fais pause pour calculer. Ok, si vous travaillez 20 minutes par jour sur votre objectif, ou bien 2h20 chaque samedi matin, c'est pareil, à la fin de l'année, vous y aurez passé plus de 121 heures. Donc c'est énorme, imaginez tout ce qu'on peut réaliser en 121 heures. Donc voilà, si vous ne pouvez pas faire plus, si tout ce que vous avez c'est 20 minutes par jour, même 10, peu importe, imaginez ce que ça fait quand vous cumulez ça dans le temps. Et c'est là aussi où avoir divisé, donc pour revenir quand même à ce que je vous disais dans ce troisième point, le fait d'avoir divisé en mini étapes, ça vous permet justement de trouver des petites actions à faire qui vous permettent d'avancer vers votre objectif dans un temps réduit. Parce que c'est sûr que si vous avez 20 minutes par jour et que vous devez créer un site internet, ça paraît infaisable. Mais si la petite action que vous avez à faire, c'est recenser les sites de freelance qui proposent la création de sites internet, bah c'est faisable. Et surtout, vous ne perdrez pas votre motivation. Et c'est là où le quatrième point revêt toute son importance, puisque la quatrième clé que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fait de créer des habitudes. Quand quelque chose devient une habitude, c'est beaucoup moins dur de se motiver, puisque vous le faites presque automatiquement. Ça devient naturel et vous n'avez même plus besoin de vous autodiscipliner. Par contre, pour créer des habitudes, c'est là où l'autodiscipline aussi entre en jeu. Parce que c'est ce qui va vous permettre de répéter un comportement suffisamment de fois pour que ça devienne une habitude et que vous n'ayez plus à vous poser la question. Donc demandez-vous quelles habitudes vous pouvez mettre en place pour atteindre votre objectif. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui puisse vous soutenir dans l'atteinte de votre objectif. Par exemple, si vous souhaitez manger sain, bah ça peut être par exemple le samedi ou le dimanche à telle heure, faire la liste des plats que vous allez préparer durant la semaine et passer votre commande drive ou aller faire les courses pour la semaine. Et vous pouvez aussi décider de cuisiner chaque fois pour 2 jours ou 3 jours. Ou alors je sais qu'il y a des gens qui font du batch cooking et qui cuisinent pour la semaine, moi perso j'y arrive pas du tout. Mais en tout cas, essayez de trouver des techniques qui feront que, et des habitudes à créer qui feront que quand vous retrouvez le mercredi à rentrer du travail tard et que vous êtes claqué, vous n'aurez pas à vous poser la question. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous avez déjà quelque chose de prêt et vous ne serez pas tenté de commander sur Uber Eats. Voilà. Autre exemple, si votre objectif c'est de faire du sport régulièrement, eh bien vous pouvez décider que le mardi et le jeudi, après le travail, vous irez à la salle ou à tel cours de yoga. Et vous savez que c'est comme ça, tous les mardis, tous les jeudis, c'est comme ça, votre sac est prêt, il n'y a pas de question si vous allez plutôt boire un verre, sinon, c'est juste, les choses sont comme ça. Et du coup, il n'y a plus cette espèce de flottement quand vous devez décider. En fait, l'objectif, quand vous créez une habitude, c'est de ne plus mobiliser votre pouvoir de décision et votre motivation, parce que parfois, bah, ils sont assez bas. Et l'idée, c'est que vous ne posiez pas la question et que vous entrez juste en action. Et je vais vous donner un exemple perso. Avant que je commence mon activité de coach et que du coup, mon Instagram et mes réseaux sociaux tournent autour de ça, donc c'était 2018, je crois, j'avais pour rêve d'écrire un livre et je voulais du coup me remettre dans le bain de l'écriture. Et donc, je m'étais fixée comme habitude d'écrire un post Instagram tous les matins. Alors, c'est pas forcément l'endroit le plus adapté parce qu'on sait qu'Instagram c'est pour les photos, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je faisais. Et au début, c'était super dur parce que trouver quelque chose à raconter tous les jours et puis trouver la motivation de le faire aussi, je m'étais fixée de le faire le matin avant de commencer ma journée. Et c'était pas toujours évident, mais à force de répétition, eh bien, j'ai écrit pendant des mois et des mois et des mois, je crois que ça peut même se compter en années, un post tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, tous les jours de la semaine, j'écrivais quelque chose. Et en fait, ce qui est super aussi, c'est qu'au bout d'un moment, je me posais même plus la question. Et surtout, à force de créer, à force d'avoir des idées, bah, j'avais de plus en plus d'idées. Donc au début, c'est dur. Et ensuite, ça devient facile. Et donc ça, c'est vraiment le pouvoir des habitudes. Et c'est pour ça que ce quatrième point est particulièrement important pour trouver, garder la motivation, essayer au maximum de vous créer des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il y a 3 approches pour ça. La première, c'est de faire un changement drastique. C'est un peu une approche tout ou rien. Par exemple, vous êtes fumeur, vous l'arrêtez de fumer, et ben vous arrêtez de fumer, vous ne fumez plus d'un coup, vous réduisez pas progressivement, juste vous arrêtez. Ou bien si votre souhait c'est de faire du sport, ben, vous décidez de faire une heure de sport par jour. Bon, évidemment, le problème avec cette approche un peu drastique, un peu radicale, c'est que bien souvent, c'est difficile de maintenir un changement de comportement comme ça sur la durée quand c'est aussi radical, parce que le cerveau est assez résistant. Donc au début, ça fonctionne, et puis ensuite, souvent, ça fonctionne pas forcément sur la durée. Donc une deuxième approche, c'est d'adopter un changement un petit peu plus graduel. Si votre objectif, par exemple, c'est de faire, je sais pas, une heure de méditation par jour, eh bien vous pouvez commencer par faire 2 minutes de méditation par jour la première semaine, la deuxième semaine 5 minutes, etc., etc., jusqu'à ce que progressivement vous atteignez cette heure de méditation par jour. Je sais pas si des personnes ont ça comme objectif, mais en tout cas, vous voyez l'idée. C'est vraiment de développer cette nouvelle habitude de manière progressive. Et pareil, si vous souhaitez arrêter de fumer, ben, c'est de commencer avec peut-être une cigarette en moins par jour la première semaine, et puis ensuite deux, etc., etc. Voilà, progressivement. La troisième approche, c'est de fractionner. Par exemple, si votre objectif, c'est d'écrire un livre, si vous souhaitez créer une habitude d'écriture avec cette approche plutôt fractionnée, ben, vous choisiriez peut-être d'écrire pendant 20 minutes par jour, tous les jours. Voilà, ça c'est la troisième approche pour créer une nouvelle habitude. À tester, à voir ce qui vous convient le mieux selon ce que vous souhaitez implémenter comme habitude, et puis selon votre personnalité, vos besoins, etc. Cinquième point, cinquième clé que je voudrais vous partager aujourd'hui pour trouver la motivation et puis surtout la garder, c'est anticiper, alors déjà identifier, et ensuite anticiper les potentiels obstacles, les potentielles difficultés que vous pourriez rencontrer sur le chemin vers votre objectif. Je sais que c'est pas la partie fun, mais c'est super important parce que des obstacles, des difficultés, des coups de mou, il y en aura forcément. Et si vous ne les anticipez pas, ça risque fortement de vous décourager, de vous faire perdre votre motivation quand vous les rencontrerez. Donc là, l'idée, c'est de venir se confronter à la réalité, d'anticiper un petit peu ce qui pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir trouver des solutions déjà en amont pour soit éviter que ça se produise, soit si ça se produit, avoir des solutions à appliquer immédiatement pour pas vous retrouver surpris ou surprise face à ça et puis vous démotiver, vous dire que vous n'allez pas y arriver et laisser tomber. Donc, concrètement, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait venir vous saboter dans l'atteinte de votre objectif. Ça peut être par exemple la fameuse baisse de motivation, justement. Et donc là, ça peut être en termes de solution, de faire en sorte de pouvoir compter sur votre autodiscipline. Autre chose qui peut venir vous auto-saboter, ça peut être le syndrome de l'objet brillant. Vous commencez quelque chose, puis il y a autre chose de brillant qui attire votre regard, et donc vous laissez tomber la première chose pour vous consacrer à et pour vous lancer dans ce truc nouveau qui a l'air palpitant, qui a l'air intéressant. D'autant plus d'ailleurs, ça arrive souvent, d'autant plus quand le projet que vous avez lancé, ou ce dans quoi vous êtes lancé en tout cas, devient difficile. Et donc là, on est d'autant plus tenté de sauter sur autre chose. Autre exemple qui peut venir vous auto-saboter, ça peut être vos pensées négatives, vos pensées dévalorisantes envers vous-même, votre manque de confiance en vous qui peut faire que vous allez procrastiner ou vous allez abandonner. Ça peut être aussi peut-être parfois une difficulté à dire non, à poser des limites qui fait que vous avez du mal à dire non, je sais pas, à votre famille ou à vos amis qui vous sollicitent ou veulent vous voir et du coup vous n'avez pas de temps pour vos projets. Ça peut être une difficulté à prioriser, ça peut être une tolérance plutôt basse à l'inconfort qui fait que quand ça devient difficile, vous avez tendance à abandonner. Donc c'est super important d'identifier ces difficultés potentielles, ces différents obstacles pour pouvoir travailler dessus. Parce que cette question de la confiance en soi, c'est vraiment un méga auto-saboteur. Et c'est pas quelque chose qui se travaille en un jour. Et en vrai, je pourrais faire un podcast seulement là-dessus. La sixième clé, c'est de se créer un environnement qui soit motivant. Parce que oui, la motivation vient de l'intérieur de soi, c'est cette espèce d'élan que l'on peut ressentir, cette énergie, cette impulsion, mais c'est aussi important de se créer un environnement qui soutient cette motivation. Parce que notre environnement peut être soit super motivant, super soutenant, ou au contraire vraiment être un obstacle pour rester motivé. Par exemple, parce qu'il y a trop de distractions. Si vous êtes constamment distrait par les réseaux sociaux, ou même par les autres d'ailleurs, par des personnes qui vous sollicitent, ça risque d'être compliqué de rester concentré. Et l'entourage, ça fait partie de l'environnement. En tout cas, dans ce que je veux dire par environnement, il y a aussi cette question de l'entourage. C'est hyper important de bien s'entourer, parce que bien sûr, faut pas se leurrer, le fait d'être entouré, le fait d'être soutenu, ça donne de la force pour changer, pour avancer, pour se motiver. Et à l'inverse, si vous êtes entouré de personnes assez négatives ou qui sont dominées par leur peur, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, ou bien qui, contrairement à vous, n'ont pas forcément d'objectif et sont focus sur, je sais pas, faire la fête ou je ne sais quoi, ben, ça va être difficile de pas vous faire attraper dans ce genre d'état d'esprit et de garder votre motivation. Donc essayez au maximum de vous entourer de personnes déjà qui vous acceptent inconditionnellement tel que vous êtes, des personnes qui croient en vous, qui vous invitent à donner le meilleur de vous-même, qui si possible même vous inspirent, qui sont positives aussi pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps qu'elles soient optimistes et qu'elles vous disent toujours que ce que vous faites c'est super et que vous êtes génial, mais au moins qui prennent le temps de souligner ce qui va dans le bon sens, qui ne soient pas juste là à renforcer vos angoisses et vos peurs, parce que sans doute que vous en avez déjà. Et bien sûr, essayez aussi vous-même d'être ce genre de personne pour les personnes qui vous entourent. Pour terminer, j'ai encore trois petites clés pour garder la motivation et pour persévérer. C'est donc la septième clé, et c'est d'apprendre à gérer vos émotions et vos pensées négatives. Rien de tel pour complètement perdre la motivation que de se laisser engloutir par l'anxiété, par les peurs, par les pensées négatives, les pensées dévalorisantes qui vous découragent, qui vous plongent dans le doute et qui vous paralysent. Donc c'est super important d'apprendre à gérer ces pensées-là, à apprendre à mettre de la distance avec elles, à apprendre à mettre de la distance avec les pensées de comparaison, à lâcher prise sur le perfectionnisme, à apprendre aussi à accepter l'inconfort que vous pouvez ressentir quand vous faites quelque chose de difficile, apprendre à apprivoiser et à dépasser vos peurs aussi. Bref, l'idée c'est de développer un mindset qui soit soutenant pour vous, qui vous aide à avoir une bonne hygiène mentale entre guillemets. Toutes ces thématiques, je les ai abordées en long, en large dans le podcast avec des clés concrètes, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans les autres épisodes, puisqu'il y a des épisodes spécifiques sur à peu près toutes ces questions-là. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi, parce que tout ce que je viens de mentionner, ce sont des compétences, et avec les bons outils, avec un accompagnement personnalisé, c'est quelque chose que vous pourrez développer, et c'est un peu des outils pour la vie, clairement. Petite parenthèse, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. C'est un appel de 30 minutes qui est offert, on peut justement échanger un petit peu sur votre situation, sur vos besoins, sur vos objectifs, et voir si on sera un bon match pour travailler ensemble. Le lien est dans la description de cet épisode. Et je referme cette parenthèse pour vous partager la huitième clé, qui pour le coup est une technique. Il y a un milliard de techniques, de petits hacks, on va dire, que l'on peut mettre en place pour se motiver, etc. Mais s'il y en a une que j'utilise personnellement, c'est celle-ci, c'est la règle des 5 minutes. Quand j'arrive vraiment pas à m'y mettre, quand j'arrive vraiment pas à me motiver à faire quelque chose, que je traîne les pieds, eh bien je m'y mets pendant 5 minutes. Je me mets juste un minuteur, 5 minutes, et je me mets à cette tâche. Et souvent, bien souvent, ça fonctionne, c'est-à-dire que le plus difficile c'est de s'y mettre, et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et donc bien souvent le timer sonne et je continue ce que je suis en train de faire. Et puis parfois ça fonctionne pas, parfois au bout de 5 minutes vraiment c'est j'avance dans la douleur, et ça veut peut-être aussi dire que ben, j'ai besoin de repos ou j'ai besoin de travailler sur autre chose, et ça sert à rien de forcer parce que c'est pas du tout là où je serai le plus efficace. Et donc c'est aussi accepter peut-être de faire autre chose que ce que j'avais prévu. Mais quand même, dans une grande majorité des cas, ce qu'il me fallait, c'était m'y mettre. Et une fois que je suis lancée, donc c'est une technique que j'utilise beaucoup et que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore testée ou adoptée. Neuvième et dernière clé que je vais vous partager dans cet épisode de podcast sur la motivation et qui est essentielle et que pourtant on néglige bien souvent, c'est de mesurer vos progrès. C'est de mesurer votre avancement, de célébrer aussi les petits pas que vous faites jusqu'à votre objectif. On a trop tendance à se concentrer sur l'objectif, sur la ligne d'arrivée, et pourtant il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses entre les deux. Si on ne se concentre que sur ce qui reste encore à faire, le chemin peut paraître long. Et donc c'est super important de reconnaître les petits pas qu'on a déjà faits et de les célébrer, parce que c'est aussi ce qui est motivant et ce qui nous donne un peu de carburant pour continuer, de réaliser qu'on avance et qu'on accomplit des choses, surtout si c'est un projet qui est assez long. À vous ensuite de trouver comment vous avez envie de mesurer ou de célébrer. Moi je sais que le fait de cocher une petite case, de prendre 30 secondes pour me dire good job, et bien ça suffit. Mais parfois si c'est un plus gros accomplissement, ça peut être chouette, je sais pas, de s'offrir un petit cadeau, un massage ou je ne sais quoi, ou juste du temps pour soi, juste profiter, savourer le chemin, parce que c'est super important pour continuer d'avancer par la suite. Voilà pour tout ça. Ce sur quoi je voudrais conclure, c'est l'importance de l'expérimentation. D'expérimenter, de voir ce qui fonctionne pour vous, de tester et de pas vous attendre à devenir motivé et à garder la motivation comme ça en un claquement de doigts. Ça va demander de vous comprendre, de vous connaître, d'expérimenter et trouver ce qui marche pour vous. Donc ce que je vous propose avant de se quitter, c'est donc de faire un petit point comme d'habitude sur les différentes clés que je vous ai partagées. Et la première, c'était d'apprendre à vous fixer des objectifs qui soient motivants, avec les différentes règles que je vous ai partagées. En deuxième, de connaître votre pourquoi à vous. Ensuite, de découper votre objectif en petites actions. Quatrièmement, de créer des habitudes qui soient soutenantes pour ne plus toujours vous appuyer sur votre motivation, mais faire en sorte de créer des automatismes et de plus avoir à vous poser la question. Cinquièmement, d'anticiper les différents obstacles qui pourraient venir se mettre sur votre chemin et vous démotiver en cours de route. Sixièmement, vous créer un environnement qui soit propice pour rester motivé. Septième clé, gérer vos émotions et les pensées négatives qui peuvent venir vous plomber, en tout cas plomber votre motivation. Huitième clé, la règle des 5 minutes. Et enfin, dernière clé, mesurer vos progrès, votre avancement et le célébrer. Voilà pour cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et en attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao !